Rien ne nous paraîtra trop insignifiant. Dieu ne bénit point les travaux les plus importants si l'amour est étranger, mais il prend plaisir aux petites choses faites par amour. Un verre d'eau froide donné à l'un de ses enfants par amour pour lui a plus de valeur à ses yeux que la conquête d'un royaume inspiré par l'ambition et la vaine gloire. Je suis fatigué d'entendre toujours répéter le mot de devoir comme si c'était l'unique mobile du chrétien. De tous côtés, j'entends dire « je fais ceci » ou « cela » parce que c'est mon devoir. L'expérience m'a prouvé que les chrétiens qui parlent ainsi sont ceux qui réussissent le moins bien dans leur travail. N'avons-nous pas un mobile plus puissant que le simple devoir? Ne pouvons-nous pas nous mettre au service de Christ parce que nous l'aimons? Quand c'est l'amour qui nous pousse, le travail nous paraît toujours facile. Une mère n'a pas de peine à soigner son enfant malade. Elle ne regarde pas cela comme une corvée. Saint Paul ne nous parle jamais de la peine que le service de son maître lui a coûté. Il était pressé de travailler parce qu'il aimait son sauveur et qu'il se sentait aimé par lui. Lutter, souffrir même pour son maître bien-aimé, c'était une joie pour lui. Vous me répondez peut-être que j'ai tort de parler contre le devoir, beaucoup de choses ne se feraient jamais sans le sentiment du devoir. C'est vrai, mais je voudrais vous faire sentir que ce n'est pas un mobile suffisant et que vous pouvez en avoir un autre bien plus puissant. Je vais bientôt retourner dans ma patrie, de l'autre côté de l'Atlantique. Je pense en ce moment à une mère aux cheveux blancs qui habite sur les bords du Connecticut, la même petite ville depuis 80 ans. Supposons que je lui apporte un présent à mon retour et qu'en le lui donnant, je dise « vous avez été si bonne pour moi autrefois que j'ai cru de mon devoir de vous apporter un cadeau ». Que penserait-elle de moi si je lui parlais ainsi? Mais si au contraire je le lui apporte comme un témoignage de mon grand amour pour elle, quel prix n'attachera-t-elle pas à mon souvenir? De même, Dieu désire que ses enfants ne le servent pas seulement par devoir. Il n'aime pas que ce soit une chose pénible pour nous de faire sa volonté. Voyez les soldats. S'ils ne se battent que par ceux qu'ils y sont forcés, ils ne remporteront pas beaucoup de victoires. Si, au contraire, ils se battent par amour pour leur pays et pour leur chef, rien ne pourra leur résister? Si ce n'est pas l'amour qui vous pousse à travailler pour Christ, ne vous attendez pas à être béni dans votre œuvre. Napoléon essaya de fonder un empire par la force des armes? Alexandre le Grand, César, d'autres conquérants encore, l'avaient essayé avant lui, mais tous, ils ont échoué. Jésus-Christ a fondé son royaume sur l'amour, et ce royaume durera éternellement. Quand nous aurons appris à aimer véritablement, tous les mobiles égoïstes et bas disparaîtront, et notre ouvrage pourra supporter l'épreuve du feu. Je voudrais vous rappeler encore une chose. L'amour ne songe jamais à ce qu'il recevra en retour de ce qu'il donne. Vous avez tous lu dans l'Évangile, selon saint Matthieu, la parabole du père de famille qui avait loué des ouvriers pour travailler dans sa vigne. Après en avoir loué plusieurs dès le matin, il en trouva d'autres à différentes heures du jour et les envoya aussi à sa vigne. Quand le soir fut venu, ceux qui avaient travaillé depuis le matin s'attendaient à recevoir un salaire plus élevé que les autres. Aussi se mirent-ils à murmurer et à se plaindre lorsqu'ils virent qu'ils recevaient tous la même chose. Mais quelle fut la réponse du père de famille, mon ami? Je ne te fais point de tort, n'as-tu pas accordé avec moi un denier par jour? Prends ce qui est à toi et t'en va. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi? Ne m'a-t-il pas permis de faire ce que je veux de ce qui est à moi? Ton œil est-il mauvais de ce que je suis bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. J'ai presque toujours vu que les chrétiens, qui se demandent sans cesse quelle bénédiction le Seigneur leur donnera en récompense de leur travail, ne sont jamais contents. L'amour vrai travaille de tout son cœur, sans poser de conditions. Ne marchons donc pas avec le Seigneur, mais soyons heureux de faire tout ce qu'il nous demande. Je suis certain que si nous nous mettons à l'œuvre, avec un cœur plein d'amour, pour ce que nous désirons atteindre, nous verrons toutes les barrières s'abaisser devant nous. L'amour fait naître l'amour, de même que la haine fait naître la haine. L'amour est la clé du cœur humain. Quelqu'un a dit la lumière est faite pour l'intelligence et l'amour est fait pour le cœur. Commencez par gagner l'affection de ceux que vous cherchez à atteindre, il vous sera facile ensuite de les amener à Christ. Je vois des enfants parmi ceux qui m'écoutent. Permettez-moi de leur raconter une histoire. Il y avait une fois un petit garçon qui demeurait sur la lisière d'un bois. Un jour, se croyant seul, il s'amusait à chanter quand il lui sembla entendre la voix d'un autre enfant assez près de lui. « Et ?»« Là-bas » s'écria-t-il. « Et ?»« Là-bas » répondit la voix. Il ne savait pas que c'était l'écho de sa voix et se mit à crier « Tu es un méchant garçon !» Naturellement, la voix répondit « Tu es un méchant garçon !» Après quelques autres paroles du même genre, il rentra à la maison et dit à sa mère qu'il y avait un vilain enfant dans le bois. La mère, qui comprit ce dont il s'agissait, lui dit « Oh, non, il n'est pas méchant. Parle-lui gentiment et tu verras s'il ne te répond pas de même. » Le petit garçon retourna dans le bois et cria « Et là-bas. Et là-bas. Tu es un bon garçon. » Inutile de dire que la voix répondit « Tu es un bon garçon. Je t'aime bien ?» Et la voix, toujours fidèle, répondit « Je t'aime bien ?» Je vous vois sourire, et pourtant cette petite histoire vous donne le mot de l'énigme. Plusieurs d'entre vous, peut-être, sont convaincus qu'ils ont des voisins fort désagréables et qu'il est impossible d'avoir de bons rapports avec eux, il est bien possible que les torts soient tout autant de votre côté que du leur. Si vous aimez ceux qui vivent près de vous, ils vous aimeront aussi. Comme je le disais tout à l'heure, l'amour est la clé qui ouvre tous les cœurs. Il n'y a pas au monde un seul être humain tombé si bas qu'on ne puisse l'atteindre avec de l'amour, de la douceur et de la bonté. Il faudra peut-être des années pour en venir à bout, mais la chose est possible. L'amour ne peut pas rester inactif. On a dit avec raison, on peut dissimuler sa fortune, enfouir ses talents. Il y a une chose qu'on ne peut ni dissimuler ni enfouir, c'est l'amour. Il ne se nourrit pas de lui-même, il lui faut un aliment. Il y a quelques années, la fièvre jaune éclata dans l'une des villes de nos États du Sud. Les décès étaient si nombreux que les autorités de la ville ordonnèrent qu'on enterrât les morts rapidement, sans prendre le temps de faire de funérailles. Une charrette allait de maison en maison prendre les morts et les porter au cimetière. Une famille étrangère était venue depuis peu s'établir dans cette ville. Le père fut bientôt atteint par l'épidémie et mourut. Les voisins avaient peur de la contagion et personne n'osa aller dans la maison des pauvres affligés. La mère ne tarda pas à être frappée à son tour. Avant de mourir, elle appela son petit garçon et lui dit « Je vais bientôt partir, mais quand je serai morte, le Seigneur Jésus viendra prendre soin de toi. » Elle n'avait personne sur la terre à qui confier son fils. Peu de temps après, elle mourut, en effet, et son corps fut porté au cimetière. Le petit garçon suivit la charrette jusqu'au bord de la tombe et vit la place où l'on déposait le corps de sa mère, puis il retourna à la maison. Mais il se sentit bien seul et quand il commença à faire nuit, il eut peur et ne voulut plus rester dans la maison. Il alla s'asseoir sur le seuil de la porte et se mit à pleurer. Enfin, il retourna au cimetière, il se coucha sur la tombe de sa mère et s'endormit en pleurant. Le lendemain matin, un monsieur qui traversait le cimetière vit l'enfant qui pleurait. « Que fais-tu là, mon enfant ?» lui dit-il. « J'attends le Seigneur Jésus. » Le monsieur désira savoir ce que l'enfant voulait dire et se fit raconter son histoire. Il en fut ému et dit au petit garçon « Eh bien, mon enfant, c'est moi que le Seigneur Jésus a envoyé pour prendre soin de toi. » L'enfant leva les yeux vers lui et répondit « Vous avez été bien longtemps à venir. » Qui oserait prétendre que si nous aimions véritablement notre maître, nous ne réussirions pas à atteindre les masses qui semblent maintenant hors de notre portée ? Il n'y a pas d'ivrogne, il n'y a pas de créature coupable, il n'y a pas d'athée à qui nous ne puissions faire du bien. Les athées ne peuvent pas résister à la puissance de l'amour. C'est lui, et non le raisonnement, qui renversera l'athéisme ainsi que tous les autres faux systèmes. C'est l'amour de Christ qui brisera le cœur le plus endurci. Je suis sûr d'une chose, quand ces cœurs endurcis, qui rejettent maintenant le Sauveur, seront parfaitement convaincus que notre amour pour eux est l'unique mobile de nos efforts, leur dureté commencera à s'adoucir, leur volonté rebelle commencera à céder. Cette clé de l'amour les ouvrira. Avec l'aide de Dieu, nous pourrons les faire sortir des ténèbres de ce monde et les amener à la lumière de l'Évangile. Jésus-Christ a donné à ses disciples un signe de ralliement. Les membres d'une même association portent tantôt un ruban bleu, tantôt un ruban rouge, pour se reconnaître les uns les autres. Le signe que Jésus-Christ a donné à ses disciples, c'est l'amour, c'est à ce signe que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. De l'amour, pas seulement pour les chrétiens, mais pour ceux qui sont tombés. Le bon samaritain eut de l'amour pour le pauvre voyageur qui était tombé entre les mains des voleurs. Si nous savions aimer comme lui, le monde découvrirait bien vite que nous sommes les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Ce genre d'argument aurait plus de puissance que tout autre pour vaincre l'incrédulité et la révolte. Ce que je viens de dire me rappelle ce que j'ai vu cet hiver à Londres dans une des familles où j'ai reçu l'hospitalité. Une des jeunes filles de cette famille sentait qu'elle ne travaillait pas pour Christ autant qu'elle l'aurait voulu et elle eut l'idée de faire un groupe dans une école du dimanche. Elle a réuni maintenant une vingtaine de jeunes garçons de 13 à 16 ans, l'âge le plus difficile. Cette jeune fille chrétienne s'est dit qu'elle commencerait par se faire aimer de tous ces jeunes garçons afin de les amener ensuite au Sauveur. Il est touchant de voir comme elle a su gagner leur jeune cœur et je crois qu'elle les amènera tous à une vie pure et sainte. Si nous sommes prêts à travailler dans ce même esprit, nous sauverons la jeunesse de notre pays. Au lieu de remplir nos prisons et nos refuges, nos jeunes gens et nos jeunes filles deviendront des membres utiles de l'Église de Dieu et seront une bénédiction pour la société. Un de mes amis en Amérique a fondé une grande école du dimanche. Il pensait que les enfants qui reçoivent de mauvais exemples chez eux n'ont pas d'autre chance de devenir meilleurs que de suivre l'école du dimanche. Aussi prit-il la résolution de ne jamais renvoyer un élève qu'à la dernière extrémité. Parmi les enfants qui suivaient cette école, il se trouva un jeune garçon dont personne ne pouvait venir à bout. Tous les moniteurs à qui il était confié venaient l'un après l'autre trouver le directeur et lui dire « Retirez cet enfant de mon groupe, il fait du mal aux autres, il dit de vilaines choses et il détruit tout le bien que je pourrais faire. » Enfin, mon ami crut qu'il serait obligé de prononcer publiquement l'expulsion de cet enfant insubordonné et dans la réunion des moniteurs, il annonça son intention. Une jeune fille qui ne l'avait pas encore eu dans son groupe demanda alors la permission d'en faire l'essai. « Je ferai tout ce que je pourrai, dit-elle, pour me faire aimer de lui. » Le directeur était convaincu qu'elle perdrait bientôt patience, néanmoins il mit l'enfant dans son groupe, selon son désir. Le petit garçon ne tarda pas à enfreindre les règlements et la jeune fille fut obligée de le punir. Il en fut tellement irrité qu'il se mit en colère et lui cracha au visage. Elle prit tranquillement son mouchoir et s'essuya la figure. Après l'école, elle lui demanda de l'accompagner jusque chez elle. « Non, répondit-il, je ne veux plus vous parler et je ne reviendrai plus jamais dans cette affreuse école. » Elle lui demanda, alors, s'il voulait bien qu'elle le reconduisît chez lui. Il refusa encore. « Eh bien, lui, dit-elle, je suis très fâchée que vous partiez, mais si vous voulez passer chez moi mardi matin, vous trouverez un petit paquet à votre adresse. Je n'y serai pas moi-même, mais le domestique vous le remettra de ma part. » L'enfant répondit grossièrement « Je n'ai pas besoin de votre paquet, vous pouvez le garder. » Cependant, la jeune fille était convaincue qu'il viendrait le chercher. En effet, quand vint le mardi matin, le petit garçon était tout à fait remis de son accès de colère. Il se rendit à la maison de la jeune fille et dès qu'il eut sonné, un domestique lui apporta le paquet. Lorsqu'il l'ouvrit, il y trouva une petite jaquette, une cravate et, ce qui valait encore mieux, une lettre écrite par sa monitrice. Elle lui disait dans cette lettre combien elle avait prié pour lui, soir et matin, depuis qu'il était dans son groupe. Maintenant qu'il allait la quitter, elle lui demandait de se rappeler que, tant qu'elle vivrait, elle ne cesserait pas de prier pour lui et qu'elle espérait qu'il deviendrait un homme de bien. Le lendemain matin de bonne heure, Le petit garçon sonnait de nouveau à la porte de la jeune fille. On le fit entrer dans le salon, et quand sa monitrice vint le rejoindre, elle le trouva en sanglots. Elle lui demanda avec bonté la cause de son chagrin. « Oh, répondit-il, je n'ai pas été heureux un seul instant depuis que j'ai reçu votre lettre. Vous avez été si bonne pour moi, et j'ai été si méchant. Je vous en prie, pardonnez-moi. » En finissant ce récit, mon ami, le directeur de l'école, ajouta « Il y a environ 1800 enfants dans l'école et il n'y a pas de meilleur élève que ce garçon-là. Pourquoi ne suivrions-nous pas l'exemple de cette jeune fille ? Ah ! Que chacun de nous se consacre aujourd'hui, tout de nouveau, à Dieu et à son service. » Chapitre 3. La récompense de la foi. Luc 5. 17-19 Un jour Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici, des gens, portant sur un lit un homme, qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, et ils le descendirent par une ouverture, avec son lit, au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Les trois évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, nous racontent cette histoire. J'ai remarqué que quand le même miracle est rapporté par deux ou trois des auteurs évangéliques, c'est toujours pour faire ressortir quelques vérités importantes. Il me semble que ce que le Seigneur veut nous enseigner ici, c'est la manière dont il honore la foi des quatre hommes qui lui avaient amené ce paralytique pour qu'il le guérit. On ne nous parle pas de la foi du paralytique lui-même. Ce fut en voyant leur foi que Jésus exerça sa puissance et guérit le malade. Plusieurs commentateurs sont d'avis qu'en parlant de leur foi, l'évangéliste n'a pas entendu exclure celle du paralytique lui-même. Calvin, par exemple, s'exprime ainsi: Christ n'a pas tellement regardé ceux qui porteraient le paralytique qu'il n'ait aussi eu égard à la foi dissolue, trad. Je voudrais dire maintenant à tous ceux qui travaillent pour Christ que si le Seigneur voit que nous comptons sur sa bénédiction, il honorera notre foi et sauvera ceux que nous lui amènerons. Il n'a encore jamais trompé l'attente de ses enfants. Vous ne trouverez pas dans la Bible un seul exemple d'un homme ou d'une femme dont la foi est sincère n'ait pas été honorée par Dieu. Pendant que le Seigneur Jésus était sur cette terre, maudite à cause du péché, rien ne le réjouissait autant que de voir la foi de ses disciples, rien ne fortifiait autant son cœur. L'Évangile nous raconte qu'il régnait à ce moment-là une grande agitation dans la ville de Capernaum. Quelques semaines auparavant, le Sauveur avait été chassé de la ville de Nazareth, où il avait été élevé. Il était descendu à Capernaum et tout le peuple avait été étonné de sa doctrine. Son étoile se levait à l'Orient et sa réputation commençait à se répandre dans tout le pays d'alentour. La belle-mère de Pierre avait été guérie par une simple parole. Le serviteur d'un officier de l'armée romaine avait été relevé d'un lit de maladie et le Sauveur avait accompli plusieurs autres miracles remarquables. On venait à Capernaum de toutes les villes de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. On se rassemblait pour s'enquérir plus exactement des faits merveilleux qui se passaient. La voix de Jean-Baptiste, proclamant la venue d'un prophète, dont il n'était pas digne de délier la courroie des souliers, avait retenti d'une extrémité à l'autre du pays. Jean-Baptiste l'annonçait encore, que déjà le prophète lui-même apparaissait dans le nord de la Galilée, et que de nombreux prodiges signalaient sa venue. Les pharisiens et les docteurs de la loi étaient venus à Capernaum pour examiner de plus près les récits qui circulaient. Ils entouraient le jeune docteur afin d'entendre ses enseignements et la foule envahissait la maison où ils étaient réunis. Il est probable que la plupart de ces sages croyaient à peine un mot de ce que disait Jésus, mais il y en avait peut-être aussi quelques-uns dont le cœur s'ouvrait à sa parole. Qui sait si Nicodème et Joseph d'Arimathée n'étaient pas là? En tout cas, ils ne s'étaient pas encore déclarés publiquement disciples de Jésus. La puissance du Seigneur, nous dit l'évangéliste, agissait pour guérir les malades. Il n'ajoute pas, cependant, que tous les malades fussent guéris. Il en est de même très souvent aujourd'hui. La puissance du Seigneur peut agir dans ses assemblées pour guérir ceux qui souffrent. Cependant, bien des âmes s'en iront, se demandant ce que tout cela veut dire et sans avoir été guéris de leur maladie spirituelle. Ce qu'il nous faut, c'est de sentir la puissance du Seigneur au milieu de nous. Il y a quelque temps, un individu entra dans une de nos réunions à Londres. Il se trouva placé dans une partie de la salle d'où il ne pouvait rien entendre distinctement. Il n'entendit même pas le chapitre de la Bible qui fut lu, ni le texte du sermon. Il resta pourtant à sa place, pendant tout le service, renfermé en lui-même pour ainsi dire. Il a raconté plus tard ce que ce fut, alors que Dieu se révéla à lui et parlait de paix à son âme. Je crois à l'action de l'Esprit de Dieu, même sans l'intermédiaire d'aucune voix humaine. Ces quatre porteurs se rendirent plus utiles que tous ces pharisiens et tous ces docteurs de la loi qui étaient venus uniquement pour regarder et pour critiquer. Je ne sais pas qui ils étaient, mais je les ai toujours beaucoup admirés. Peut-être l'un d'eux avait-il été aveugle et le Seigneur lui avait-il rendu la vue. Peut-être un autre avait-il été infirme dès sa naissance et quand Jésus lui eut rendu l'usage de ses membres, il se sentit pressé de les employer à amener au Seigneur quelque autre malade pour qu'il le guérit. Le troisième avait peut-être été lépreux, il connaissait le pauvre paralytique et voulait qu'il part, lui aussi, aux grâces du Seigneur. Quant au quatrième, il avait peut-être été sourd-muet, et il voulait maintenant mettre ses nouvelles facultés au service des autres.